Interview. 100%
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de Claire Petitjean. Bonjour.
Bonjour.
Chargée de mission pour la révision du SAGE. Et ça, dans le cadre du SMRD, tout un tas de logos, on adore ça. Le SMRD, donc, c'est le syndicat mixte de la rivière Drôme, qui rassemble donc toutes les communes du territoire, plus un certain nombre de techniciens. Oui. Et ça, pour la protection de notre rivière.
Exactement.
Et le SAGE, ça va beaucoup plus loin.
Finalement, le territoire du SAGE et du SMRD, ils sont quasi les mêmes, à l'exception de quelques communes. Mais finalement, on est sur le territoire de la Drôme, donc de la source à Bâtie-des-Fonds, jusqu'à la confluence, donc Livron-Loriol. Ça draine environ 80 communes, on est sur 50 000 habitants. Un territoire assez vaste, où le SMRD essaie d'œuvrer au quotidien sur la gestion des milieux aquatiques, et récemment sur la prévention des inondations. Et puis où le SAGE, donc ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, a pour objectif d'organiser la politique locale pour avoir une gestion durable de la ressource en eau.
À une certaine époque, ce SMRD s'était positionné contre le fait que le SAGE se fasse englober dans un schéma encore plus large de bassins méditerranéens, etc. C'en est où ça ?
Alors en fait, effectivement, la France, l'échelle nationale, on est divisé en 5 grands bassins. Nous, on appartient au bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Et la majorité des territoires bénéficient seulement, enfin bénéficient, disons, ont accès aux politiques dirigées par les grands bassins, donc l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Pour notre territoire, il a été jugé que les spécificités locales de l'époque méritaient d'avoir une organisation locale des politiques de l'eau. Il reste néanmoins qu'on doit respecter en fait les directives de ce qu'on appelle le SDAGE, donc ces politiques qui sont organisées à l'échelle Rhône-Méditerranée, et on peut seulement ajouter quelques spécificités locales en fait.
Donc c'est plus de réglementation ou...
C'est pas forcément de la réglementation, c'est aussi beaucoup de préconisations, d'organisation, de concertation. C'est avant tout, je dirais, un SAGE, c'est avant tout un espace de concertation au travers de la commission locale de l'eau où les acteurs se rencontrent et discutent entre eux de tous les projets qui sont en lien avec l'eau. Si un territoire n'a pas de SAGE, finalement, les lois s'appliquent. Il n'y a pas forcément de rencontre d'acteurs, encore moins des opposants au projet, pas de manière systématique. Et finalement, les décisions sont prises sans forcément informer les uns et les autres.
Mais pour comprendre cette échelle d'indépendance de la Drôme par rapport à ce bassin Rhône-Méditerranée ?
On n'est pas indépendant, on est clairement dedans. L'Agence de l'eau est un des principaux financeurs du SMRD. On le voit aussi dans les factures d'eau. Chacun citoyen contribue à une redevance pour l'eau qui est prélevée par l'Agence de l'eau. Et l'Agence de l'eau redistribue cet argent en fonction des projets des territoires. Nous, le SAGE est un outil pour affiner en fait, les préconisations de l'Agence de l'eau à l'échelle locale. Donc, c'est-à-dire qu'on respecte leurs préconisations, mais on affine, on organise plus la politique locale avec les acteurs locaux et évidemment avec l'Agence de l'eau pour essayer d'avoir quelque chose qui corresponde au mieux à notre territoire. On estime qu'on a un territoire qui est spécifique par rapport au reste du bassin.
Pourquoi ?
À l'époque, c'était plus par rapport à l'extraction de gravier, notamment dans la rivière Drôme. Depuis, les extractions en lit majeur ont été interdites. Et depuis, on va dire, le niveau du fond des rivières s'est un petit peu stabilisé. Donc les enjeux, dès l'époque, c'est-à-dire les années 90, il y avait les extractions de gravier, il y avait déjà un manque d'eau qui était avéré. Donc il y avait un problème, notamment à l'aval, pour les pompages, pour l'irrigation, où il n'y avait pas assez d'eau pour tout le monde, et chacun gardait son pompage. Alors on parle d'agriculteurs irrigants qui gardaient son pompage la nuit avec un fusil pour garder son eau, quoi. Donc il y avait des tensions et des conflits, et c'est de là qu'est parti le SAGE, finalement, d'avoir un espace de concertation au travers de cette clé. C'était la première clé en France, donc la première fois qu'on mettait les acteurs...
Commission locale de l'eau.
Voilà, merci. Qu'on mettait les acteurs autour de la table et qu'on laissait le débat et on essayait de résoudre ce conflit. Et aujourd'hui, eh bien, finalement, le manque d'eau est toujours avéré. Donc depuis les années 90,
Pire,
parce que la population augmente. parce que les besoins augmentent, parce que changement climatique, manque d'eau, enfin manque de précipitations, on aura besoin de plus d'eau, et puis pire parce que finalement le développement touristique est important et que le besoin en eau durant la période estivale, là où on a besoin d'eau pour l'irrigation, là où on a besoin d'eau pour accueillir les touristes et aussi pour maintenir des niveaux de rivière suffisants pour qu'ils soient attractifs, disons que les tensions... Elles sont toujours là, elles n'ont pas été réglées et à l'avenir, on se pose des questions de comment ça va évoluer. Donc c'est vraiment le manque d'eau qui caractérise ce territoire aujourd'hui. On le sait depuis les années 90, il y a eu des avancées, mais pas suffisantes pour faire face au changement climatique et à l'évolution de la démographie.
Alors, cette commission locale de l'eau a permis, ça a été dit, de rassembler autant des fédérations d'agriculteurs, bref, l'ensemble des usagers, les collectivités, etc. Et ce n'était pas une mince affaire de les faire se parler entre eux. Alors, quelles sont les avancées? Qu'est-ce qui manque? Sur quoi vous travaillez maintenant? Et puis, va-t-on attendre encore 30 ans?
Non, mais aujourd'hui, il serait plus judicieux d'avoir un retour d'un membre de la clé, mais 30 ans de concertation, moi, je peux difficilement témoigner de l'évolution, mais disons que quand j'assiste à une commission locale de l'eau, par exemple en plénière, il y a quasi 50 personnes, on voit les débats qui sont posés. Depuis décembre dernier, d'ailleurs, ces séances sont ouvertes au public. Il faut s'inscrire pour qu'on puisse organiser la venue de chacun. Mais donc auprès du SMRD, on essaie d'informer dès qu'il y a une réunion. Mais donc, je dirais, le débat, il semble toujours ouvert, la concertation active. Et ça, c'est important parce que ça ne peut pas vieillir. Finalement, ce qui est important, c'est que le débat soit actif au quotidien parce que les tensions, elles évoluent. On en passe une, il y en a une nouvelle qui arrive. Et ce qui est important, c'est que les acteurs maintiennent un débat entre eux, quoi. Donc, je dirais, y compris s'il faut 30 ans encore, mais heureusement qu'on aura 30 ans devant nous encore de concertation. Et j'espère qu'il y ait le plus de temps possible à l'échange entre les acteurs.
Oui, plutôt que du conflit, c'est ça.
Même s'il y a un conflit, qu'il y a dialogue.
Moi, je parlais d'évolution aussi, parce que là, on peut pas. Finalement, est-ce qu'on va pouvoir attendre encore 30 ans qu'on trouve des solutions pour avoir suffisamment d'eau sur le territoire ou qu'elle soit suffisamment préservée?
Disons que les solutions, elles se composent. Depuis les années 90, il y a eu plein de solutions qui ont été apportées par les acteurs du territoire, par la clé, mais aussi par tous les acteurs économiques et les collectivités. Beaucoup de solutions et simplement, le paysage évolue aussi, la population augmentant aussi, les contraintes climatiques évoluant, il faut amener encore de nouvelles solutions. Et puis, je dirais aussi les paradigmes, la gestion de l'eau évolue. On avait une gestion plus d'aménagement à une certaine époque. Aujourd'hui, on se rend compte de certaines limites, notamment pour les phénomènes exceptionnels comme les inondations qui ne sont pas présentes depuis 10 ans ou 15 ans, mais qui peuvent être de plus en plus présentes. Et on sait qu'aujourd'hui, aménager, ça a des limites. Il va falloir donner plus d'espace à la rivière pour essayer de limiter les vitesses d'écoulement, pour essayer de limiter la pression sur l'aval, donc sur l'Iveron et l'Auriol notamment. Et donc ça, c'est des nouvelles pensées. C'est des pensées qu'on n'avait pas il y a 30 ans. On était dans une culture plus liée à la digue, à l'aménagement. Et aujourd'hui, on va casser un peu plus les digues. Pas toutes, évidemment, celles qui protègent des enjeux humains ou des enjeux économiques, elles vont rester. Mais donner de l'espace là où il y a moins d'enjeux pour que la rivière puisse se dissiper. Oui, ça, c'est des nouvelles pensées, par exemple.
Je voulais y venir justement sur ce point, parce qu'en introduction... parler des différentes missions du SAGE et notamment celle de prévenir des inondations. Alors nous, ça nous paraît complètement hallucinant dans le Diois parce que elle est très très libre justement, la Drôme. Peu de gens sont à son bord, mais en bas, beaucoup plus. Est-ce qu'on pourrait comme ça citer un petit peu les différentes missions?
Alors les missions du SMRD, parce que les missions du SMRD, c'est avant tout la GEMAPI et la gestion de porter le SAGE et la clé. Donc ça, c'est les deux grandes missions du SMRD. Une troisième, celle de conseiller les communes et de les assister dans le cas de travaux spécifiques dans leur commune. Ça, c'est les missions du SMRD. Le SAGE, lui, il vit au travers de la clé, il vit par ceux qui veulent mettre en œuvre cette politique, qui peut être mise en œuvre par tout individu, tout habitant du territoire, par les collectivités, par des professionnels, des irrigants ou des professions du tourisme, du canoë. Le SAGE, lui, il est plus indépendant. Le SMRD, lui, il porte le SAGE, il porte la clé et il organise la GEMAPI.
L'émission. La GEMAPI.
La GEMAPI, gestion de l'eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc cette nouvelle compétence, qui a été aussi présente parmi la taxe d'habitation sur le territoire, donc auquel chacun peut contribuer désormais, c'est une compétence qui a été récemment confiée aux intercommunalités, donc aux communautés de communes, celle du DIWA, de la 3CPS et de la CCVD, qui ont décidé de confier totalement cette compétence au SMRD. Depuis le 1er janvier 2018. Donc désormais, effectivement, le risque d'inondation dans un territoire amont comme le DIWA, c'est le principe d'une gestion du bassin versant. Le territoire amont ressent rarement une pression de l'inondation, sinon que des glissements de terrain, des départs de berges ou autres. Mais pas de...
Il y en a quand même pas
il y
mal.
En a un petit... ouais. Il y en a pas mal parce que la géologie locale veut que, effectivement, les berges sont facilement fragilisées. Il n'empêche que c'est rarement un risque humain ou économique. Alors économique, ça va plus être discutable parce qu'il y a toutes les zones agricoles.
Oui, des fois, ils perdent un bout de champ.
Donc la stratégie de travailler à l'échelle d'un bassin versant, c'est une stratégie purement française à l'échelle internationale, mais c'est de mettre une solidarité amont-aval, à un moment de réfléchir si le territoire amont se met à endiguer. La rivière fait comme un flipper finalement, elle va taper sur une digue, rebondir sur l'autre et s'accélérer au fur et à mesure, être de plus en plus fort, plus elle va descendre. Et ça va rebondir chez le voisin. Je dirais, dans la mesure où on était peu, ça fonctionnait parce qu'en fait on ne voyait pas le voisin ou on ne le connaissait pas beaucoup et on n'avait pas connaissance du territoire plus bas. Aujourd'hui, la densité veut, que ce soit pour les activités ou la population, fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonner tout seul. Il y a une époque, on pouvait, mais aujourd'hui, on ne peut plus. Et donc, si on endigue tous pour protéger sa berge ou son petit bout de jardin ou sa zone agricole, il risque que la rivière augmente en termes de débit et puis que la vitesse à l'aval soit telle qu'il y ait des dégâts qui, cette fois-ci, peuvent être humains. Quoi. Voilà, donc c'est une réflexion vraiment amont-aval. Et notamment, on en parlera tout à l'heure, mais c'est des réflexions qui sont illustrées très facilement sur un jeu qu'on propose, par exemple, le mardi 1er octobre dans la soirée, où chacun peut jouer le rôle d'un maire. Et il y a des maires qui sont en amont, d'autres en aval. Alors, la place, elle est décidée par un dé, donc on n'a pas toujours le choix. Mais voilà, on voit.
Et on met une digue, c'est ça ?
Et on peut mettre une digue. Et on peut mettre un forage, on peut faire du maïs irrigué, ou on peut choisir de développer une base de canoë, ou une zone commerciale. Et tout d'un coup, effectivement, soit il y a des amendes, ou soit le territoire n'est plus viable, et finalement, la commune ne fonctionne plus. Donc, c'est un jeu qui est hyper chouette pour ça. Il nous a été conseillé dès 8 ans, mais il est à tout âge hyper intéressant à vivre, et notamment pour la relation à Mont-Aval.
8 ans, tant mieux, mais il y en a qui... C'est bien de les prendre à la source, mais je veux dire, c'est bien de faire ce jeu aussi avec des adultes et des élus. Est-ce que, là, j'ai entendu parler d'amendes, réellement, aujourd'hui, on ne va plus pouvoir implanter n'importe quoi, n'importe où?
Alors là, on rejoint plus le domaine de l'urbanisme, c'est-à-dire que quand même, il y a des contraintes en termes d'urbanisme, des zones agricoles, des zones qui peuvent se développer pour des vocations commerciales. Donc là, c'est des choix de l'urbanisme. Il n'empêche que ce soit un SCOT, comme il est en discussion dans l'aval, ou du PLUI au niveau du DIWA, ces documents doivent être compatibles au SAGE, c'est-à-dire qu'il doit vérifier que les choix qui sont faits dans les PLUI ou dans les PLUI des communes ou le SCOT correspondent aux choix qui ont été faits dans le SAGE. Donc, il doit être compatible. Donc, aujourd'hui, le SAGE dit simplement que, au vu du manque d'eau du territoire depuis les années 90, on peut accepter qu'un volume prélevable pendant la période d'été. C'est-à-dire qu'il a été calculé, alors avec les imprécisions que ça représente, mais que l'agriculture, pendant l'été, elle peut prendre que tel volume. L'eau potable, elle peut prendre que tel volume. Et l'industrie, tel volume. Pendant la période estivale, donc du 1er juin au 15 septembre. Et que les volumes actuels, ils sont trop. Ils sont trop importants et qu'il faut tout baisser, ces volumes, de 15% pour l'agriculture, l'eau potable et l'industrie. Donc ça a été dans les années 2012-2014, donc c'est très récent. Ça a été,
c'est pas encore appliqué.
C'est déjà appliqué, clairement. Mmh. Donc l'agriculture, là, ils ont déjà engagé des baisses, et par notamment la création de réserves intersaisonnières, et puis travaille aujourd'hui sur des projets plus d'interconnexion avec le Rhône pour amener l'eau du Rhône sur la partie aval, pour justement arrêter les prélèvements en rivière ou en nappe sur l'aval du bassin. Pour l'industrie, pareil, il y a eu beaucoup d'efforts pour les plus grands industriels du territoire, et notamment sur les process, donc ils ont eu des process avec plus de réutilisation d'eau, moins de consommation. Et puis après, il y a la question de l'eau potable. Donc aujourd'hui, l'eau potable, il y avait plusieurs choix. Soit on demande à tous d'investir et s'il fallait équiper tout le monde, les 25 000 foyers, c'était assez coûteux. Le choix le plus efficace qui a été de retour d'expérience d'autres territoires, c'était de se dire, on va travailler déjà sur les fuites de réseau. On a des réseaux qui peuvent fuir jusqu'à 40% de fuite, 30% de fuite. Et donc peut-être que si déjà nos réseaux ont moins de fuite, on va déjà gagner beaucoup en termes d'économie.
Donc là, une phase de rénovation, donc pousser les communes à rénover.
Pousser les communes à rénover, les gestionnaires des réseaux d'eau potable.
Donc avec l'agence de l'eau qui finance.
Qui peut financer, mais pas toujours. Ah. Donc forcément, ça implique des changements de stratégie financière dans la gestion des réseaux. Mais il n'empêche que notre territoire l'exige, on en a besoin. Et puis après, si ce n'est pas suffisant, il faut prendre d'autres mesures. Et donc d'autres mesures, évidemment, d'économie d'eau sont déployables. Et je dirais, il ne faudrait pas dire où, mais bien et. Il faut travailler et sur les fuites d'eau, mais et aussi sur les économies à la maison, équiper chacun, économiser effectivement au sein des bâtiments publics. Il y a plein de solutions aujourd'hui. Maintenant, c'est conjuguer tous les efforts pour atteindre ce dont le territoire a besoin.
On ne pourra pas en stocker plus de l'eau ?
Non, mais le stockage est toujours une question qui est souvent abordée parce que oui, on est une des dernières rivières sauvages d'Europe, donc pas de barrage. Donc effectivement, on a beaucoup d'eau pendant l'hiver qui n'est pas utilisée et qui parfois même peut créer des désastres. Et puis l'été, on n'a pas assez d'eau. Donc là, ça a été un choix, je dirais, politique de l'époque qui est aujourd'hui aussi un bénéfice environnemental important qu'on ne ressent peut-être pas, mais toute la biodiversité liée à la rivière, elle est aussi due à ça.
À l'absence de barrage.
Voilà. Absence de barrage, effectivement, avec des zones qui sont intermittentes, donc des rivières en tresse, qui tressent, avec des zones de l'eau, en présence d'eau, peu d'eau, avec beaucoup d'eau. Et ça, ça développe un écosystème très varié. Et ça, c'est souvent très étudié par les chercheurs parce que rare en France. Il n'empêche que nous, on a ce problème de stockage. Et pour la question du stockage, il y a différents moyens de stockage. C'est très souvent évoqué. Après, il faut le mettre dans le contexte technique et économique par rapport au volume dont on a besoin. Et très souvent, ça amène à des mètres cubes très coûteux parce que ce sont des bassins colossaux en termes de volume. On le voit sur la réserve des Juanons qui a été créée pour les agriculteurs en aval. Ils peuvent en témoigner sur le coût de l'eau derrière. Donc, c'est beaucoup plus cher. Donc, il faut après voir entre notre besoin d'eau, jusqu'où on est prêt à payer, et ce qu'on est capable d'économiser à la source, en fait.
Est-ce qu'il va falloir changer des pratiques ? On parlait de maïs, par exemple. Mais donc, arrêter une pratique agricole consommatrice d'eau et la laisser aux endroits où il y en a ?
Alors, oui.
Par exemple,
changements,
c'est pas une attaque aux agriculteurs. Hein.
C'est, les changements de pratiques, c'est évident qui vont être nécessaires, a priori, au vu des dernières prévisions. Le maïs, il est très souvent critiqué parce que très visible. Et notamment, on accuse l'irrigation entre midi et 14 heures. C'est vrai que c'est criant. Après, tout ceci peut s'expliquer, je dirais peu, parce que pas tous les cas. Mais quand on est en manque d'eau et qu'il y a du prélèvement en rivière, si tout le monde prélève la nuit, on assèche la rivière la nuit. Donc, c'est pas possible. Donc, on organise des tours d'eau sur les 24 heures et il y en a qui se retrouvent à irriguer en pleine journée. Donc ça, c'est quelque chose dont... Bon, voilà, qui ne paraît pas intuitif sur le coup, mais c'est aussi ce qui peut expliquer parfois les irrigations en pleine journée. Il n'empêche qu'on perd de l'eau en pleine journée, c'est évident, par l'évaporation. Et puis, pour la culture du maïs, je dirais souvent, elle répond aussi à un besoin. Elle répond à un besoin par rapport à l'élevage, donc à notre consommation de viande. Donc indirectement, si on voulait enlever le maïs de la Drôme, il faudrait manger moins de viande. Après, on peut se dire, on va le mettre chez quelqu'un d'autre, parce que chez nous, ça ne va pas. Aujourd'hui, je dirais, on l'a vu cet été, la tension sur l'eau, elle concerne beaucoup de territoires en France. Et de plus en plus, donc, c'est le phénomène « not in my backyard », donc pas chez moi, quoi. Donc le maïs, on n'en veut pas chez nous, peut-être.
Il pourra se faire qu'en Bretagne, quoi, en fait.
Oui, encore que la Bretagne, elle a déjà beaucoup de culture. Donc,
c'est vrai.
Et d'élevage notamment. Donc après, c'est faut arriver à doser les contraintes agricoles de ce maïs. Mais ce n'est pas le plaisir de faire du maïs irrigué, je pense. Ça répond juste aussi à une demande. Donc il faut arriver à mettre les choses les unes au bout des autres pour se dire, qu'est-ce que je peux faire par rapport au maïs, par exemple ? Eh bien, si je mange moins de viande, peut-être que finalement, il y a moins de maïs. Voilà, c'est des choses indirectes. Et puis, évidemment, que la profession agricole travaille sur des techniques culturales à adapter, des techniques d'irrigation moins gourmandes en eau. Et ils sont en pleine transition, ils se posent beaucoup de questions. Donc, on le voit, et ils sont en plein mouvement avec les contraintes économiques qu'ils ont et souvent qui sont très fortes. Donc voilà, c'est une profession qui aujourd'hui subit beaucoup de critiques. peut-être à juste titre ou peut-être pas, mais c'est une profession en mouvement, c'est sûr.
Le changement climatique, c'est les premiers à le prendre de plein fouet, hein, de toute façon, je pense que voilà.
Disons que le changement climatique fait qu'ils auront a priori plus besoin d'eau pour irriguer. Et ils sont déjà dans notre territoire au maximum. Donc ça pose des contraintes et des limites, et y compris pour eux. Donc je pense qu'ils étudient ce projet d'amener de l'eau depuis le Rhône, mais aussi de voir comment évoluent les cultures dans notre territoire aussi. Et puis après, il n'y a pas que l'agriculture, une fois de plus.
Bien sûr.
Bien que l'agriculture soit aussi liée avant tout à nous et à notre manière de consommer au quotidien. Donc après, on a un vrai levier sur l'agriculture en indirect. Et puis après, il y a aussi notre consommation directe. Et puis ce qu'on appelle aussi cette empreinte eau ou eau indirecte, tout ce qu'on achète au quotidien, que ce soit des plastiques, des vêtements, du matériel, des téléphones, ça consomme de l'eau, peut-être pas chez nous tout le temps, mais ça consomme de l'eau indirectement, donc c'est ce qu'on aura peut-être de moins dans un nuage. Voilà, il y a un moment, il y a la conscience de l'eau qui peut prendre place au quotidien dans notre consommation directe, mais aussi indirecte.
Et puis, Claire, on abordait tout à l'heure la question de la biodiversité autour de ce bassin de la Drôme. Il y a un rôle aussi de prévention, de protection de cette eau, de sa pureté. Voilà, le marais des Bouligons. Enfin bon, nous ici, on a quand même quelques zones. Je pense la gare des Ramières aussi. Voilà, ce sont des endroits assez célèbres que les gens connaissent. Est-ce que tout ça, ça fait partie aussi du programme ? Faire en sorte qu'elle reste belle et bonne ?
Il y a plein d'enjeux derrière, effectivement, les milieux aquatiques. Il y a l'aspect qualité de l'eau. Alors, lié à la santé publique, dans un premier temps, c'est avoir une eau potable de qualité aujourd'hui, puis pour les générations de demain. Donc, il y a cette question-là.
Espérons-le.
En tout cas, on fait le maximum pour nous et tout le monde, hein, j'espère. Et après, il y a la question d'avoir des cours d'eau qui soient baignables, parce qu'aujourd'hui, il y a cette pratique qui est là. Et il y a un enjeu de santé publique qui est lié aussi à la baignade.
Est-ce qu'à l'inverse, la baignade ne pollue pas un peu trop l'eau
Alors clairement, aujourd'hui, la dernière étude qu'on a faite sur l'impact des activités de loisirs montre qu'à 80, voire 90% des impacts sont portés par la baignade, clairement.
Donc, c'est quoi ? C'est
les jus.
Ah non,
le piétinement. La concentration, les petits pipis, la crème solaire. Donc, tout ça conjugué fait que les milieux sont trop occupés finalement. Il y a la fréquentation qui est forte et les oiseaux, toute la diversité autour et puis tous les micro-écosystèmes qui sont là, ils se font piétiner en continu et ils ont des périodes de repos très courtes finalement la nuit où ça peut se remettre en route très tranquillement. Donc c'est vrai que la baignade, elle a un impact. Mais elle est aussi un atout pour le territoire. Donc, il faut aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en discussion, quoi, de maintenir.
Passer par des lieux spécifiquement aménagés, puis des autres non.
Ça pourrait. Ouais. Aujourd'hui, la question de la baignade est une question plus complexe en termes d'agencement politique, parce qu'on a une séparation comme. De compétences, on est toujours dans cette question de compétences. Le maire est responsable de la baignade sur son territoire. L'intercommunalité des déchets, souvent, et du tourisme. Et puis nous, des milieux aquatiques. Donc, ce qui complexifie la mise en place d'actions. Je dirais pas complexifie, mais qui met plus de temps. Donc, sur la question du tourisme. Après, sur la santé publique, d'une manière générale, on est toujours dans cette question de comment nous, déjà, individuellement, on peut avoir un impact sur la qualité. Donc, de par ce qu'on utilise à la maison ou au quotidien, de ce qu'on jette ou pas dans la nature, de ce qu'on ramasse ou pas dans la nature. Donc ça, c'est la qualité. Il y a l'urbanisme, évidemment, qui a un rôle très fort sur la protection, notamment des zones où il y a du captage, où il y a une eau de qualité pour les captages d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Donc, l'année dernière, la clé a déterminé des zones à préserver pour les générations futures. Donc, c'est des zones où il va y avoir des règles en termes d'urbanisme plus importantes pour préserver ces zones, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que la qualité de l'eau et les milieux, de plus en plus, la question des milieux, aujourd'hui, elle a été apportée par « il faut protéger ». Aujourd'hui, on est plus « regardons ce que les milieux nous apportent ». Les milieux nous apportent un paysage, nous apportent de la fraîcheur, nous apportent un équilibre au niveau de la biodiversité et nous permet d'avoir une bonne qualité d'eau. Donc la raison pour laquelle il faut pas seulement les protéger, mais aussi réinsuffler la biodiversité, parce qu'elle est bien en disparition. Donc on a quand même maintenant un rôle qui n'est pas seulement de la protéger, mais on voit la réintroduction de l'apron, qui est souvent pris comme une blague, parce que c'est un micro-poisson, et on se demande pourquoi autant de choses autour d'un micro-poisson.
Mais emblématique.
Oui, ce sont des espèces qui ont été jugées importantes pour les milieux, dont l'utilité est clairement reconnue, et qui a un sens d'être présente, et donc il y a des programmes de réintroduction pour l'équilibre général. Donc après, on a la loutre, on a le castor, et on voit bien après la tension qu'on retrouve très vite sur les territoires entre la nature sauvage qui se réimplante et puis l'occupation humaine. Et on est toujours dans cet espace de transition entre nature et homme. Quand ça se croise, ben, il y a des zones de tension et d'incompréhension. Je pense au castor notamment.
Et oui, on peut dire d'ailleurs que ça a quand même vraiment bien progressé, en tout cas dans le haut du bassin. Cette implantation de biodiversité, le retour des castors par exemple, c'est flagrant, il y en a vraiment de plus en plus, la plupart des cours d'eau commencent à être occupés, des nouvelles zones humides sont créées, c'est vraiment en progression quand même, finalement ça fonctionne cette réinsufflation, préservation de la biodiversité.
Ça fonctionne, mais à quel prix ? Parce qu'on voit comme ces 9 dernières années, la rivière à Laval a été en assec. C'est-à-dire que la rivière Drôme n'a pas rejoint le Rhône depuis 9 ans en fin d'été. Parfois sur plus de 100 mètres, sur quelques centaines de mètres, dû à des prélèvements importants parfois, et pas seulement, dû aussi à un manque d'eau qui est clairement là. Et donc du coup, on se retrouve avec une biodiversité qui, pour le coup, quand on a un assec... Les poissons, ils meurent tous. La diversité, enfin tout ce qui est vivant dans la rivière va mourir pleinement. Et là, pour que ça se réinstalle, ça va prendre beaucoup plus de temps que la saison d'été qui a tué tout le vivant sur la rivière.
Ouais, l'eau recoule, mais ça ne reprend pas. Les algues ne seront pas là.
Ça prend du temps. Et surtout, ce sont différentes espèces qui vont se réimplanter.
Donc là, il y a un vrai enjeu à ce que la rivière rejoigne... J'allais dire le Rhône tout le temps,
oui.
En fait.
Oui, il y a quand même un enjeu pour que ne pas assécher une rivière, ça a un impact important. Et le temps d'assec derrière il va être vraiment important, parce que plus la rivière va être à sec, plus l'écosystème va avoir du temps à se réinstaller.
Et donc tous les ans, en plus, ça se reproduit.
Ouais, ça se reproduit de manière
chronique. Ah bah ça, on ne le sait pas quand on est en haut, comme ça. Donc l'eau est un bien commun, on en parle depuis bientôt une demi-heure, Claire Petitjean. Et donc là, il y a une journée de présentation de la nouvelle stratégie Eau Drôme, hein, je lis. Alors donc c'est ça qui va se passer le 1er octobre ?
Oui, alors en fait, le SAGE Drôme, il est actuellement en révision. Donc on a élaboré une nouvelle stratégie. Cette stratégie est le fruit de concertations avec le public en mars dernier, dans l'Ivoire et dans la zone aval aussi, avec la commission locale de l'eau, et elle a été adoptée en juin dernier. Et là, c'est l'occasion pour nous, à l'automne, de présenter cette stratégie qui organise les enjeux les plus prioritaires sur le territoire, et puis comment on va atteindre ces objectifs. Donc là, pour nous, c'est un événement qui est vraiment important, parce qu'à la fois, on a peu de temps à y accorder, et à la fois, on sait que ça répond à un besoin. Au vu des dernières participations du public avec le SMRD des dernières années, on voit qu'il y a un besoin d'information qui est clairement formulé régulièrement. Et donc, nous, on essaie de répondre à ce besoin. On essaie au moins une fois par an, voire deux fois par an, d'avoir un événement d'échange avec le public.
Donc ça fait partie de ce qui est remonté, justement, de vos consultations publiques.
Oui, d'avoir un besoin de plus d'informations.
Voilà, les gens n'étaient pas au courant.
Ils n'étaient pas assez au courant, voulaient plus de transparence. Et donc ça, depuis... C'est pour ça, la raison pour laquelle on a ouvert la commission locale, les membres de la CLE ont décidé d'ouvrir la commission locale de l'eau à des observateurs. C'est la raison pour laquelle on prend du temps pour ces événements, bien que ça ne se soit pas directement dans nos missions. Mais on essaie de garder cette interface, et aussi parce qu'on sait que c'est très riche d'échanger avec les habitants. On a des retours qui sont très importants, et puis en retour, on arrive à clarifier des situations qui sont parfois incomprises. Donc là, l'événement, c'est le 1 et le 2 octobre. On l'a conçu de manière à que le 1er octobre, ce soit la soirée. On est à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Pour nous, c'est un lieu qui est central donc pour le bassin versant, mais qui comporte des limites en termes de covoiturage. On voit qu'en termes d'accessibilité, certains sont freinés parce qu'il faut prendre une voiture. Donc remplissez vos voitures, amenez vos voisins, vos amis. Si vous venez, n'hésitez pas. Et donc le mardi soir, la proposition...
Quand on vient de Livron,
effectivement, c'est loin.
Je veux dire, voilà, c'est moins loin de Die, par exemple. Hein.
Oui, pour l'instant, mais si on vient de la Bâtie-des-Fonds, on s'en trouve une certaine distance aussi. Donc c'est toujours ce jeu à l'échelle du bassin versant, c'est une grande échelle. Donc mardi soir, 1er octobre, 18h-20h, c'est une soirée jeu qu'on organise avec l'association Archi-Jeux de Cré. La proposition, c'est de découvrir... un jeu de plateau qui s'appelle My River Kit, qui a été conçu par des citoyens et des chercheurs lors du projet SPAR, donc un projet porté par le SMRD et financé par l'Europe de ces dernières années. Ce jeu n'a jamais été utilisé publiquement parce qu'il a été édité en fin de projet. Donc on a un vrai jeu, un jeu de plateau, où quatre joueurs, on en a parlé tout à l'heure, peuvent exercer la fonction de maire de commune en bord de rivière. Essayer de soit être le plus riche ou soit d'avoir un territoire le plus durable. Donc ça, c'est un jeu que moi, je trouve très, très convivial, accessible et drôle. Donc en plus, on a la chance d'avoir des spécialistes du jeu qui viennent l'animer. Donc moi, j'invite chacun à venir s'il a envie de jouer. C'est une soirée conviviale, quoi, de 18h à 20h. Et voilà.
Puis je répète aussi, c'est un jeu qui devrait vraiment tourner. Et puis il faudrait jouer à plus de 4, d'ailleurs.
Oui, alors on peut jouer à plusieurs sur une même commune, hein, mais...
Non, mais d'être vraiment étalé comme ça sur un bassin pour vraiment se rendre compte jusqu'à la sécheresse finale en bas.
Parce que non, là... c'est certain. Mais à quatre, on se rend compte déjà de la complexité de faire des choix à quatre. Parce que, de fait, la condition, soit vous êtes le plus riche, soit vous êtes territoire durable, il y a un moment où il y a des stratégies différentes en termes individuels et il y a un moment où il y a des tensions. Donc on est obligé de communiquer... et de, je veux dire, dealer les uns avec les autres. Quoi. Il y a un moment, il va falloir trouver des argumentaires pour convaincre les autres. Et c'est là que c'est intéressant. Et ce jeu, je le trouve très chouette pour ça. Parce qu'il est clairement coopératif, mais il peut être aussi très personnel. Quoi. Il y a un moment où on peut se dire, moi, je vais être le plus riche, je suis en amont, j'ai de l'eau, je développe ce que je veux et vous débrouillez. Donc voilà, et après, tout est possible dans le jeu.
Est-ce que si on devait tirer une logique, il vaudrait mieux essayer d'être le plus riche toujours en aval et le plus préservé en amont?
Eh bien, moi, je suis toujours curieuse. Plus je vois de plateaux jouer, parce qu'à chaque fois que je vois un plateau jouer, toujours les joueurs me disent « Mais on est au maximum et c'est impossible de développer ce territoire. » Et en même temps, je vois un autre plateau qui arrive à tout mettre au vert son territoire et ils comprennent pas comment les autres n'y arrivent pas. Donc, c'est vrai que c'est juste vraiment une histoire de relation, de comment on arrive ensemble à construire, sachant qu'on a des intérêts à la fois personnels et collectifs ensemble. Donc, moi, je trouve 4 joueurs, c'est déjà beaucoup.
Ah bon.
Et puis, il y a plein de notions qui sont intéressantes. Le recours à la station d'épuration, pourquoi on doit mettre une ripisylve, donc une forêt, une zone naturelle avec de la forêt alluviale. Quel est l'intérêt? Enfin, on comprend plein de choses. Et en même temps, ce n'est pas très compliqué, donc c'est assez chouette. Voilà, donc ça, c'est mardi 1er octobre, 18h-20h. Pour les curieux, venez. L'idéal, c'est de réserver parce qu'on n'a que 8 jeux. Et donc, ça fait 32 places. Donc voilà.
C'est déjà fort.
C'est ouais. Déjà pas mal pour nous, 8 plateaux de jeux. Mais voilà. Et puis après, on a cette journée officielle de présentation, le mercredi donc 2 octobre, toujours à l'ancien monastère de Sainte-Croix. La proposition, c'est de commencer à 10h par une présentation donc, de cette stratégie qu'on a intitulée « Voulons-nous de l'eau demain ?». Donc, c'est présenter quels sont les axes prioritaires qui ont été décidés par le public et la clé. Cette présentation se fera par Gérard Crozier, donc, qui est président du SMRD et de la clé, et qui sera accompagné de Christelle Fermont, donc, la directrice du SMRD, qui anime aujourd'hui le SAGE. Dans l'après-midi, on continuera à 14h avec une proposition plus artistique qui est portée par Fernand de Roussan, qui est un audio-naturaliste connu au niveau national, et on a la chance qu'il soit présent sur notre territoire. Et il a pris des sons et ambiances de la rivière Drôme, donc sur notre territoire. Il propose de les émettre dans une cave du monastère, donc un espace assez intimiste, où lui intervient un petit peu. Et c'est une proposition juste de contemplation face à la nature. Donc ça, c'est à 14h, pour environ une heure. Et à 15h30, l'équipe du SMRD propose une sortie terrain, lecture de paysage, donc au départ 15h30 du monastère de Sainte-Croix. Et la proposition, c'est de mieux comprendre ce que c'est finalement la prévention des inondations. On a la chance, sur le haut de Sainte-Croix, d'avoir une belle lecture de paysage autour de Pontet et de toute la vallée autour. Et donc, de comprendre la place des milieux, la pression agricole, la pression touristique. On a pas mal d'éléments qui sont présents. Et ça, je pense que j'ai bien confiance auprès de mes collègues pour partager leur passion autour de l'eau et des rivières durant cette sortie terrain.
Donc là, on voit un grand bout du sillonnage de la Drôme avec les différents niveaux. Effectivement, des agricultures qui parfois sont du côté de Pontet quasiment au plus près, là, les noyers. Et puis, quelques fermes isolées aussi au bord. Et puis, des villages comme Sainte-Croix, un peu en hauteur quand même, qui sont déjà, qui ont anticipé que... Il fallait rester à l'abri.
Oui, clairement. Et puis après, on arrive sur la digue de Pontet, qui protège le village de Pontet actuellement, qui est fragilisé. Bon, là, on parle beaucoup de la décharge de Pontet. Donc, on a tous ces éléments qui sont là. Et je pense que c'est l'occasion de clarifier certains termes et puis comprendre les pressions et enjeux qu'ils peuvent avoir. C'est une zone qui, pour nous, est très chouette parce qu'elle comporte plein d'enjeux. Et c'est pour ça qu'on la propose en sortie terrain aussi. Voilà. Ça, c'est 15h30 avec l'équipe du SMRD. Et puis la soirée de clôture, elle sera à 18h30, toujours au monastère de Sainte-Croix. On a décidé de la centrer sur le partage de l'eau, donc sur cette question de rareté de l'eau. Pour nous, c'est un axe prioritaire pour le territoire. Donc c'est une soirée plutôt débat où on a invité deux spécialistes de la rareté de l'eau. Donc un premier, c'est un chercheur, Patrice Garin de l'IRSTEA de Montpellier. Donc lui est vraiment spécialiste de la rareté de l'eau. Il a conduit un projet, notamment dans Diwa, sur comment, socialement, on ressent ou pas la rareté de l'eau, comment on ressent la pression, qu'est-ce que ça nous fait. Et donc lui, il est vraiment sur le tissu social et la rareté de l'eau, comment ça s'imprègne ou pas dans une population. Et sa présentation sera suivie par celle de Caroline Henri de Villeneuve, qui vient donc de la région. Elle est spécialiste des territoires en manque d'eau, donc comme le nôtre. Et elle vient nous partager son retour d'expérience de comment font les autres, quelles erreurs ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'on peut développer sur notre territoire. Donc nous, on est très heureux de l'accueillir aussi sur ce sujet.
La région Auvergne-Rhône-Alpes a eu aussi une compétence sur cette question-là, en fait.
Elle centralise pas mal d'informations. Et puis, Caroline Henri de Villeneuve travaille aussi avec le ministère sur ces questions de manque d'eau. Donc, elle est missionnée par le ministère pour centraliser les retours d'expérience sur les zones en manque d'eau, donc déficitaires en eau.
Et pardon, pour revenir sur l'intervention de Patrice Garin, vous l'avez mesuré au SMRD que les gens commencent à stresser avec le manque d'eau ici ?
Je dirais.
Il y a quand même quelques communes qui passent, même y compris l'hiver, en limite, là, justement, depuis 2-3 ans.
Oui, mais c'est assez surprenant d'ailleurs, parce qu'au vu des dernières participations qu'on a faites ces dernières années, je dirais que très souvent, ce qui apparaît en premier point, c'est la qualité de l'eau. Très souvent. Alors, on s'est demandé si l'impact médiatique n'était pas non plus trop fort, parce que parfois, il y a les mots comme glyphosate qui sont peu présents sur notre territoire, qui viennent dans les discussions, alors que ce n'est pas des problématiques présentes chez nous. Donc, on voit l'impact extérieur dans la représentation du monde de l'eau. Donc, la qualité de l'eau et notamment les déchets, c'est quelque chose de très présent. Et finalement, le manque d'eau viendra après. Ça va être plus milieu naturel, paysage, et après seulement le manque d'eau. Donc, on a été très surpris. Après, dès qu'on a des étés comme celui qu'on vient de vivre, bien que chez nous, ça a été le moins pire, mais ça a été nationalement ou médiatiquement très relayé. Je pense que, par exemple, cette année, il y aurait eu plus de retours sur le manque d'eau, par l'aspect médiatique notamment. Bien que cette année était moins forte.
Il suffit de marteler une idée pour que ça passe.
Incroyable. Ça dépend où. Il y a pas tous les canaux n'ont pas le même impact. Donc, le manque d'eau, bizarrement, paradoxalement, il n'est pas autant ressenti quand on voit qu'il a été officiellement déclaré depuis les années 90 sur notre territoire. C'est-à-dire qu'à l'échelle préfectorale, il y a un arrêté préfectoral qui dit « notre territoire consomme plus d'eau qu'il n'en a depuis les années 90 ». Donc c'est quand même plus de 30 ans et c'est pas quelque chose qui ressort.
Mais comment ça marche alors? Mais pardon, c'est complètement fou. Ça c'est un truc à enorgueillir les climato-sceptiques en fait. On peut faire depuis 30 ans, on consommer plus d'eau qu'on en a, c'est pas grave, ça marche.
Ça marche, mais à quel prix et jusqu'où, on ne sait pas. Là, ça fonctionne encore.
On ne sait pas dans quoi ça pompe, quoi.
Après, on épuise. Clairement, ouais. Ça veut dire que clairement, on épuise le territoire, notamment certaines nappes. Donc après, on a ce problème.
Une fois qu'elles sont vides.
Après, le fonctionnement d'une nappe, vu que c'est un fonctionnement interannuel, donc chaque année, on dit « Oh mince, il n'y a pas neigé cet hiver ». Oui, il y a Panégeste hiver, mais c'est le cumul de trop prélevé ces dernières années, plus Panégeste hiver, là, ça pose problème. Si c'était seulement Panégeste hiver, ce n'est pas un problème en soi. C'est le cumul, en fait, qui va poser problème. Et les nappes, ça, elles fonctionnent en général, selon la profondeur, évidemment, dans un fonctionnement de plusieurs années. Donc, on ne le mesure pas tout de suite. Et puis après, on a ce problème des forages individuels qui ne sont pas déclarés. Donc, il y a aussi tout ce que nous, on mesure. Et puis tout ce qui n'est pas mesuré. Aujourd'hui, on sait que, bon, on dirait plus de 80% à vue d'œil, des forages ne sont pas déclarés, puis forages individuels. Et là, on n'a pas de suivi. Alors, la grande peur...
Il
n'y
a pas de moyen non plus de les... Pardon, la grande peur.
En propriété privée, non. On ne peut pas aller comme ça chez les gens. La grande peur qui est souvent notifiée, c'est celle de... Bah oui, mais si on le déclare, un jour, on aura un compteur, on va payer. Oui, alors ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Nous, l'objet, ça serait qu'en tant que gestionnaire du territoire, ça aurait été vraiment chouette d'avoir les données pour arriver à mieux guider les politiques, mais pas la politique annuelle, la politique dans 30 ans. C'est-à-dire de se dire vraiment, est-ce qu'on est dans le rouge-rouge? Est-ce qu'on est orange? Ou quelle marge on a, en fait? Et aujourd'hui, on n'a pas accès à cette donnée. Donc c'est vrai qu'on sait qu'elle est là, on n'a pas de données de volume prélevé. Alors souvent, on a le retour de se dire, mais c'est pour le jardin, donc ça retourne à la terre. Oui, moyennant évaporation, consommation par la plante. Donc tout ne retourne pas à la terre. Et puis quand on pompe, suivant la profondeur, on pompe à 3 mètres, ça retourne à la terre. Si on pompe à 40 mètres, ça ne va pas retourner dans la même nappe. Donc à un moment, on va vider une nappe. Il y a des nappes que nous, on estime protégées pour les générations futures, mais qui sont aussi captés par certains forages individuels.
Qu'on croit protéger, en fait.
Voilà, et c'est vrai que ça pose problème. Après, de là à dire, jamais il n'y aura de compteur, je veux dire, on n'en sait rien. Et puis, si demain, il y a un compteur, je ne sais pas.
Ce ne serait pas plus intéressant qu'ils n'existent pas, ces forages, plutôt qu'ils soient prélevés et comptés
Oui, alors après, c'est vrai que de toute façon, un forage, dès qu'il existe, au-delà d'avoir des volumes qui ne sont pas contrôlés, c'est aussi un risque de pollution. Je veux dire, dès qu'on fait un trou, on met une nappe en contact avec l'air. Donc, il y a un risque de pollution hyper fort qui s'exerce. Donc là, on ne parle plus de quantité, mais on bascule sur la qualité. Ça veut dire que nos nappes, elles sont traversées par des gruyères aujourd'hui et des risques de pollution très fréquents. Donc après, c'est au libre arbitre de chacun. Refermer un forage, pareil, il faut que ça soit bien refermé dans les règles de l'art, quoi. Et c'est suivant comment c'est fait, ça peut être plus ou moins risqué. C'est toujours mettre à nu une nappe, c'est toujours un risque. Une nappe, moins elle est en contact de l'air, plus elle est protégée. C'est le principe.
Et enfin, d'autres personnes.
C'était cette soirée de clôture.
Voilà, Alain Galis et Christelle Fermont seront là aussi.
Donc la proposition, c'est de faire intervenir deux experts qui nous fassent partager leur retour d'expérience au niveau national et puis au niveau de la région, pour ouvrir le débat au sein d'une table ronde avec des acteurs locaux. Donc on a Alain Galis qui viendra, qui lui est directeur du syndicat d'irrigation de Romois, donc il représente les irrigants de Laval. Christelle Fermont qui donc anime la Clé et le Sage annuellement, donc depuis plus de 10 ans, donc qui pourra témoigner. Et puis on espère encore aujourd'hui, donc on a d'autres acteurs de l'eau potable et du tourisme qui sont encore en discussion pour la semaine prochaine.
Ah, il y aura des surprises.
On espère. Voilà, moi j'invite en tout cas toute personne qui se sent intéressée par ce sujet de venir, parce que les occasions, elles sont pas courantes. Enfin, nous, on n'a pas toujours les moyens d'en faire beaucoup, des événements comme ceux-ci. L'expérience veut que on n'a pas toujours beaucoup de public et c'est bien dommage, et on essaie quand même de maintenir les événements parce qu'on pense qu'ils ont du sens, mais c'est vrai que c'est toujours affectant entre guillemets d'avoir peu de public, mais pour ceux qui sont là, on maintient quand même ces événements et on pense qu'il est indispensable d'avoir des espaces de discussion et d'information sur ces sujets. Donc voilà.
Donc, et venez. On peut manger en plus. Hein.
Venez. Alors l'opportunité de repas, elle est sur réservation au SMRD. Donc nos contacts, c'est le 04 75 21 85 23 ou le mail, c'est info@smrd.org. Alors c'est écrit avant le 25 septembre, donc ça sera sûrement trop tard pour l'émission. Raisons sont que c'est plus de l'organisation pour le monastère de Sainte-Croix. Je dirais, appelez toujours, on pourra peut-être s'organiser avec eux, on verra. Mais voilà, ils nous proposent de belles assiettes bio locales à la soirée jeu et puis le lendemain. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'avais pas trouvé OK là.
Bon, bah, trop tard, je l'ai fait. Vous avez quand même un site internet aussi.
On a un site internet.
On peut
internet.
Suivre quand même ses activités, tout ça. Voilà. Finalement, se tenir quand même au courant des grandes orientations du SMRD.
Clairement, on a ce site internet rivière-du6drôme.fr qu'on est en train de mettre à jour. Donc là, on est encore sur l'ancienne version qui est toujours actuelle, je dirais, mais on aimerait la rendre encore plus fonctionnelle. Donc ce sera sûrement dans un an. Le nouveau site internet. On a aussi, depuis 2 ans, le Facebook du SMRD, qui nous permet de communiquer différemment. Et on essaie aussi d'être actif sur cet outil-là. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance de ces... à liker, si vous aimez ça. Mais voilà, c'est des outils qui sont à disposition. Après, à chacun, envie est là, de les utiliser.
Bon, Claire, merci, on n'a rien oublié.
Je crois que ça va, c'est bien.
Alors, à la prochaine, pour se tenir au courant.
Eh bien, merci de votre accueil. Interview. Okay, the bird.